Question. C'est vrai? Ça marche vraiment ainsi? Je me souviens d'un moment dans ma vie où les choses n'allaient pas tellement bien. Je prenais ma thèse entre mes mains en me disant que je n'avais plus d'argent, que j'avais très peu de nourriture, et que je ne savais pas où j'allais prendre mon prochain repas complet, ni comment je pourrais payer mon loyer. Ce soir-là, j'ai rencontré un jeune couple au terminus d'autobus. J'y étais pour prendre un paquet, et je voyais ces jeunes, blottis sur un banc, qui utilisaient leur manteau pour se couvrir. Je les ai vus, et mon cœur a bondi vers eux. Je me suis rappelé ma jeunesse, comment c'était quand on était jeune, à survivre à peine et toujours entre deux endroits, comme ça. Je suis allé les trouver et je leur ai demandé s'ils aimeraient venir chez moi et s'asseoir près d'un bon feu, boire un peu de chocolat chaud et profiter d'une bonne nuit de repos sur un sofa-lit. Ils ont levé vers moi des yeux tout grands, tels des enfants un matin de Noël. Eh bien, nous sommes arrivés à la maison et je leur ai préparé un repas. Nous avons tous mangé mieux ce soir-là qu'aucun de nous ne l'avait fait depuis un bon moment déjà. La nourriture avait toujours été là. Le réfrigérateur était plein. Je n'avais qu'à tendre le bras vers l'arrière et à saisir tout ce que j'avais repoussé vers le fond. J'ai fait un sauté de tout ce qui reste dans le frigo, et c'était formidable. Je me rappelle m'être demandé d'où provenait toute cette nourriture. Le lendemain matin, j'ai même préparé le petit déjeuner aux deux jeunes et je les ai ramenés sur leur route. En les déposant au terminus d'autobus, j'ai fouillé dans ma poche et je leur ai donné un billet de $20 en leur disant « ça pourra peut-être vous aider ». Puis, je leur ai donné une accolade et je suis parti sur la route. Toute la journée, je me suis senti mieux à propos de ma situation. Je dirais même toute la semaine. Et cette expérience, que je n'ai jamais oubliée, a produit un profond changement dans mon regard et dans ma compréhension de la vie. Dès lors, les choses se sont améliorées. Et en me regardant dans la glace ce matin, j'ai remarqué une chose très importante. Je suis encore là. Réponse. Voilà une belle histoire. Et tu as raison. C'est exactement ainsi que ça fonctionne. Alors, quand tu veux une chose, donne-la. Ainsi, tu ne te trouveras plus à la vouloir. Tu feras immédiatement l'expérience de l'avoir. À partir de là, ce n'est qu'une question de degré. Psychologiquement, tu trouveras beaucoup plus facile d'ajouter que de créer à partir de rien. Question. J'ai le sentiment d'avoir entendu quelque chose de très profond là. À présent, peux-tu relier cela à la seconde partie de ma question? Y a-t-il un lien? Réponse. Ce que je propose, vois-tu, c'est que tu as déjà la réponse à cette question. Maintenant, tu vis la pensée que tu n'as pas la réponse, mais si tu l'avais, tu aurais la sagesse. Alors, tu viens à moi pour obtenir la sagesse. Mais je te le dis, sois la sagesse, et tu l'auras. Et quelle est la manière la plus rapide d'être la sagesse? De faire en sorte qu'un autre soit sage. Choisis-tu d'avoir la réponse à cette question? Donne la réponse à un autre. Alors maintenant, je vais te poser une question. Je ferai semblant de ne pas savoir, et tu me donneras la réponse. Comment le parent qui retire un enfant au milieu de la circulation peut-il vraiment aimer cet enfant si l'amour signifie qu'on veut pour l'autre ce qu'il veut pour lui? Question. Je ne sais pas. Réponse. Je sais que tu ne sais pas. Mais si tu pensais que tu le sais, quelle serait ta réponse? Question. Eh bien, je dirais que le parent désire vraiment pour l'enfant ce que veut ce dernier, c'est-à-dire rester en vie. Je dirais que l'enfant ne veut pas mourir, mais ne sait tout simplement pas que le fait d'errer dans le trafic pourrait provoquer cela. Alors, en courant attraper l'enfant, le parent ne le prive aucunement de l'occasion d'exercer sa volonté, mais entre en contact avec le choix véritable de l'enfant, avec son plus profond désir. Réponse. Ce serait une très bonne réponse. Question. Si cela est vrai, alors toi, en tant que Dieu, tu ne devrais rien faire d'autre que de nous empêcher de nous blesser, car nous ne pouvons désirer profondément nous faire du tort, même si nous le faisons tout le temps. Pourtant, tu te contentes de rester là à nous regarder. Réponse. Je suis sans cesse en contact avec votre plus profond désir, et c'est toujours ce que je vous donne. Même quand vous faites quelque chose qui vous amènerait à mourir, si c'est votre plus profond désir, c'est ce que vous obtenez. L'expérience de la mort. Je n'interfère jamais, jamais avec votre plus profond désir. Question. Veux-tu dire que lorsque nous nous faisons mal à nous-mêmes, c'est ce que nous voulons faire, c'est là notre plus profond désir? Réponse. Vous ne pouvez pas vous faire mal à vous-même. Vous êtes incapable de vous faire mal. Le mal est une réaction subjective et non un phénomène objectif. Vous pouvez choisir de vous faire mal à partir de n'importe quelle rencontre ou de n'importe quel phénomène, mais ce sera votre entière décision. Dans le contexte de cette vérité, la réponse à ta question est oui. Quand tu t'es fait mal, c'est parce que tu le voulais. Mais je te dis cela dans un contexte supérieur, ésotérique, et ce n'est pas vraiment de là qu'origine ta question. Au sens où tu l'entends, comme une question de choix conscient, je dirais que non, que chaque fois que tu fais quelque chose qui te fait mal, ce n'est pas parce que tu le voulais. L'enfant qui se fait heurter par une voiture parce qu'il déambulait en pleine rue ne voulait pas. Ce n'était pas un désir, une recherche, un choix conscient. L'être. L'homme qui épouse à maintes reprises le même type de femme, celle qui ne lui convient vraiment pas, emballée sous différentes formes, ne veut pas, ce n'est ni un désir, ni une quête, ni un choix conscient, continuer à créer de mauvais mariages. On ne peut affirmer que la personne qui écrase son pouce avec un marteau a voulu vivre cette expérience. Ce n'était ni un désir, ni une quête, ni un choix conscient. Mais tous les phénomènes objectifs sont attirés vers toi par le biais du subconscient. Tous les événements sont créés par toi d'une façon inconsciente. Chaque personne, endroit ou chose de ta vie ont été attirés vers toi par toi, ont été créés par le soi, si tu veux, pour te fournir les conditions exactes et appropriées, l'occasion parfaite de vivre ce que tu voulais vivre ensuite dans ton projet d'évolution. Rien ne peut arriver, je te le dis, rien ne peut survenir dans ta vie qui ne soit pas une occasion précisément parfaite pour toi de guérir, de créer ou de vivre ce que tu voulais guérir, créer ou vivre afin d'être qui tu es vraiment. Question. Et qui suis-je en réalité? Réponse. Tout ce que tu choisis d'être, l'aspect de la divinité que tu veux être, voilà ce que tu es. Cela peut se transformer à tout moment. En effet, cela change fréquemment, d'un instant à l'autre. Mais si tu veux que ta vie se pose, si tu veux cesser de t'attirer une aussi grande variété d'expériences, il y a un moyen. Cesse tout simplement de changer d'idée aussi souvent à propos de qui tu es et de qui tu choisis d'être. Question. C'est plus facile à dire qu'à faire. Réponse. Ce que je vois, c'est que tu prends ces décisions à plusieurs niveaux différents. L'enfant qui décide d'aller dans la rue pour jouer dans le trafic ne fait pas le choix de mourir. Il fait peut-être un certain nombre d'autres choix, mais mourir n'en fait pas partie. La mère sait cela. Le problème ici n'est pas que l'enfant ait choisi de mourir, mais qu'il ait fait des choix qui pourraient mener à plus d'un résultat, y compris sa mort. Ce fait n'est pas clair pour lui, il lui est inconnu. En fait, l'information qui lui manque empêche l'enfant de faire un choix éclairé, un meilleur choix. Alors tu vois, tu as tout analysé parfaitement. Eh bien moi, en tant que Dieu, je n'interférerai jamais avec tes choix, mais je saurai toujours ce qu'ils sont. Par conséquent, tu tiens peut-être pour acquis que si une chose t'arrive, c'est parfait ainsi, car rien n'échappe à la perfection dans le monde de Dieu. La trame de ta vie, les gens, les endroits et les événements qui y figurent, a été parfaitement créée par le parfait créateur de la perfection même, toi. Et moi, en toi, en tant que toi et grâce à toi. Alors, nous pouvons travailler ensemble, dans ce processus de co-création, d'une façon consciente ou inconsciente. Tu peux vivre ta vie d'une façon consciente ou inconsciente. Tu peux suivre ta voie endormie ou éveillée. À toi de choisir. Question. Attends. Revenons à ce commentaire sur le fait de prendre des décisions à plusieurs niveaux. Tu disais que si je voulais que la vie soit plus calme, je devais cesser de changer d'idée à propos de qui je suis et de qui je veux être. Quand j'ai dit que ce n'était peut-être pas facile, tu as fait remarquer que nous faisions tous nos choix à plusieurs niveaux. Peux-tu élaborer? Qu'est-ce que cela signifie? Quelles en sont les implications? Réponse. Si tes désirs correspondaient à ceux de ton âme, tout serait très simple. Si tu écoutais la partie de toi qui est âme pure, toutes tes décisions seraient faciles et tous les résultats joyeux. C'est parce que les choix de l'esprit sont toujours les plus élevés. Il n'est pas essentiel de les comprendre après coup. Il n'est pas nécessaire de les analyser ni de les évaluer. Il suffit de les suivre, d'agir en fonction d'eux. Mais tu n'es pas seulement une âme. Tu es un être en trois parties, fait d'un corps, d'un esprit et d'une âme. c'est à la fois ta gloire et ton prodige. Car tu prends souvent des décisions et tu effectues des choix aux trois niveaux simultanément qui ne coïncident pas toujours. Il n'est pas rare que ton corps veuille une chose, tandis que ton esprit en cherche une autre et que ton âme en désire une troisième. C'est vrai, en particulier des enfants qui, souvent, n'ont pas encore suffisamment de maturité pour faire des distinctions entre ce qui paraît amusant pour le corps et ce qui a du sens pour l'esprit, encore moins pour ce qui est en résonance avec l'âme. Par conséquent, l'enfant va se dandiner dans la rue. Alors, en tant que Dieu, je suis conscient de tous vos choix, même de ceux que vous faites d'une façon subconsciente. Je n'interférerai jamais avec eux, bien au contraire. Ma tâche consiste à faire en sorte que vos choix se réalisent. En vérité, c'est vous qui vous les accordez. Je n'ai fait que mettre en place un système qui vous le permet, soit le processus de création, et il est expliqué en détail dans le tome 1. Lorsque vos choix se trouvent en conflit, quand le corps, l'esprit et l'âme n'agissent pas d'une façon unifiée, le processus de création fonctionne sur tous les plans, en produisant des résultats mitigés. Si par contre, votre être est en harmonie et que vos choix sont unifiés, des choses étonnantes peuvent se produire. Vos jeunes gens ont une expression « s'organiser » qui pourrait décrire l'état unifié de l'être. Dans votre prise de décision, il y a également des niveaux à l'intérieur de niveaux. C'est particulièrement vrai au sujet de l'esprit. Votre esprit peut, et il le fait, prendre des décisions et faire des choix à partir de l'un des trois niveaux intérieurs. La logique, l'intuition, l'émotion, et parfois des trois, en produisant le potentiel de conflit intérieur supplémentaire. Et au sein de l'un de ces plans, l'émotion, il y a cinq autres niveaux. Ce sont les cinq émotions naturelles, à savoir la peine, la colère, l'envie, la peur et l'amour. Et à l'intérieur de celles-ci, il y a aussi deux derniers niveaux, l'amour et la peur. Les cinq émotions naturelles comprennent l'amour et la peur, qui sont la base de toutes les émotions. Les trois autres sont des excroissances de ces deux-là. En définitive, toutes les pensées sont parrainées par l'amour ou la peur. C'est la grande polarité. C'est la dualité primale. Tout, en fait, revient à l'une ou l'autre des deux émotions. Les pensées, les idées, les concepts, les façons de comprendre, les décisions, les choix et les actions sont fondés sur l'une d'elles. Et à la fin, il n'y en a vraiment qu'une, l'amour. En vérité, il n'y a que l'amour. Même la peur est une excroissance de l'amour, et quand on l'utilise efficacement, elle exprime l'amour.